Dans le psaume 91, il y a un gros enseignement sur le repos. C'est un constat terrible dans le royaume des cieux. Combien de chrétiens ont obtenu le pardon du péché. À la croix, ils ont été bouleversés en comprenant que Jésus-Christ, le Dieu de l'univers, fait homme, a payé pour leur forfait. C'est un des plus grands privilèges sur la terre, obtenir le pardon des péchés. Mais il n'y a pas que le pardon des péchés. Dieu enseigne maintes et maintes fois, de maintes manières différentes, le repos. Et nous devrions, nous les serviteurs de Dieu, nous appliquer pour que tous les chrétiens entrent dans le repos. C'est une vérité. Une chrétienne me disait dernièrement, une chrétienne qui n'a que 40 ans de conversion, me disait, mais c'est quoi le repos ? Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Regardez cette expression quand même, c'est Dieu qui l'utilise. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Ce n'est pas une question d'épreuve là, c'est le malheur. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, et je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous allons encore lire deux textes qui parlent du repos. Psaume 4, verset 9, ces choses que je vais partager avec vous, je les ai sans doute déjà dit souvent, mais ce n'est pas grave. Certains ont besoin de les entendre, de les réentendre et peut-être de les mettre en pratique une bonne fois pour toutes. Psaume 4, verset 9, c'est un psaume qui s'adresse à quelqu'un qui a confiance. Pas quelqu'un qui prie pour prier. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui est entré dans le repos, voilà ce qu'il peut dire à la fin de la journée. Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix. » Je le relis, mes frères et sœurs. Voilà la volonté de Dieu malgré toutes les épreuves. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Vous pouvez dire amen. Après l'enlèvement de l'Église, les gens qui vont lire ça, ils vont regretter de ne pas avoir accepté. Par exemple, dans le livre des Proverbes, on peut lire Proverbes chapitre 1er. Il y a l'expression de la volonté pour une catégorie de chrétiens. Vraiment, ce sont des choses que nous devrions peut-être même noter, apprendre par cœur et supplier Dieu dans la prière de dire « Mais c'est ce que je veux, c'est ce que je veux vivre. » Proverbes chapitre 1er. On va lire le verset 32, parce que c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. La Bible parle souvent des stupides. C'est triste, mais il y a des chrétiens qui sont stupides, qui n'écoutent rien. Voilà ce que ça veut dire. La résistance des stupides les tue. Vous voyez, c'est clair. Et la sécurité des insensés les perd. Je crois que je suis sauvé, je n'écoute rien, mais je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Vous avez vu la différence? Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors pour partager cette affaire qui nous introduit non seulement dans un repos personnel, mais qui nous introduit également dans la bénédiction à partager, heureux ce qui procure la paix, et qui en même temps nous permet d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Des œuvres personnelles et une œuvre collective en fonction du corps de Christ, en fonction des œuvres des églises locales, comme nous le voyons très bien dans les épîtres pastorales ou dans les épîtres tout court, où nous voyons l'apôtre Paul donner des instructions par rapport à des œuvres dans les églises où il passait. C'est quelque chose qui devrait nous préoccuper. Est-ce que je fais ta volonté? Ou est-ce que je suis une église? Beaucoup de gens suivent une église. Beaucoup de pasteurs servent une église. Ils le font de tout leur cœur, mais ça ne sert strictement à rien. Il ne faut pas servir l'église, il faut servir Dieu. Donc nous devons savoir, car un jour nous allons comparaître devant Dieu. Je pensais prendre les textes appropriés. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas pour un jugement, c'est pour rendre des comptes. La condamnation éternelle, elle sera pour tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La Bible dit qu'il y a un jour, viendra le jour du jugement dernier. Là, c'est de la condamnation. Il y a des hommes et des femmes qui seront perdus parce qu'ils se seront appuyés sur les œuvres. Ils s'imaginent qu'on est sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais il n'empêche que quand Jésus parle de ceux qui meurent dans le Seigneur, il dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous entretenons ce salut par la grâce. Nous connaissons la miséricorde de Dieu, qui fait, comme je le disais dans ma prière, que nous sommes tous là ce matin. Et nous nous préparons à rencontrer Dieu. Nous nous préparons à rencontrer Dieu, ça doit être le meilleur moment de notre éternité. Ce moment où nous comparaîtrons devant Dieu et où nous devrons assumer nos actes. Je ne parle pas du salut, je parle des récompenses. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tu vas comparaître devant Dieu, je vais comparaître devant Dieu. Je pourrais même comparaître pour cette prédication. Oui ou non?
Eh oui.
Pour toute chose. C'est un moment que l'on doit préparer. Il ne faut pas le préparer après la mort. Après la mort, c'est trop tard. Il faut le préparer maintenant. Je ne sais pas si ça a été jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, écoutez bien. Nous avons des textes à la Bible qui nous indiquent comment faire pour travailler de deux façons. L'apôtre Paul en parle, il dit « Mais faites attention à la manière dont vous construisez. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Et il va se mettre à parler de ceux qui construisent avec du foin, de la paille, du chaume, matériaux que l'on trouve à la surface du sol, des matériaux légers, charnels. Et puis il va parler des matériaux qu'on trouve en profondeur, certains même il faut aller très profond pour les trouver, l'or, l'argent, les pierres précieuses qui sont souvent très 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 profondes, qui indiquent des matériaux spirituels parce que nous nous sommes appliqués à être spirituels. Tout cela doit être fait avec beaucoup de cœur. Servir Dieu, être sauvé c'est un privilège, servir Dieu c'est encore un autre privilège. Si vous considériez le service auquel Dieu vous appelle, serait-ce à rendre témoignage, serait-ce à vous occuper d'une personne âgée qui de l'église ou pas, qui a besoin de vous parce que Dieu vous appelle à être fidèle dans des petites choses. Considérez le service comme un privilège. Si vous considérez le fait de faire quelque chose comme une corvée, vous occupez des enfants, j'en ai marre, c'est pénible. Je sais ce que c'est de m'occuper des enfants. Si servir Dieu dans une activité quelconque, commencez à vous fatiguer, mettez-vous à genoux et faites ce qu'on va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 38. Nous avons là ce qui est bien, ce que Dieu attend. Nous avons là ce que Dieu aime. Et c'est pour ça que cette histoire, elle est dans le canon des Écritures. C'est pour ça que cette histoire, le Saint-Esprit a voulu la laisser. Vous allez me dire, Monsieur Gault, je la connais par cœur. Eh bien, si vous la connaissez par cœur, je peux vous dire que vous êtes heureux. Vous êtes vraiment heureux. Luc chapitre 20, verset 38. Le Seigneur, comme il le faisait, qu'est-ce que j'ai dit ? 10, oui. 10, 38. C'est vous qui écoutez mal. J'en suis sûr. Ma femme m'a souvent dit, Gérard, tu ne t'es jamais trompé. Donc ça m'étonnerait que je me sois trompé ce matin. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Cette histoire, on la connaît. Enfin, on croit la connaître. Cette histoire, on la connaît par cœur. Moi, je pourrais vous la réciter par cœur. C'est une chose de connaître cette histoire extraordinaire qui, depuis des siècles, a certainement béni tous les chrétiens qui ont existé sur la terre, qui lisaient la Bible. Et ce matin encore, je crois que le Saint-Esprit peut l'utiliser pour nous enseigner ce qu'est le repos. Cette histoire, elle est merveilleuse. Parce que nous avons affaire à deux sœurs intelligentes qui, lorsqu'elles sont confrontées à une situation d'incompréhension, eh bien, s'en prennent à Jésus. Marthe, dans son souci de faire quelque chose de grand, de servir Dieu, elle ne vient pas, elle n'appelle pas sa sœur en douce, « Écoute Marie, il faut que je te parle. Viens à la cuisine, j'ai un truc à te dire. » Elle va directement dans la présence du Seigneur, à côté de sa sœur, et elle fait ce reproche au Seigneur et à sa sœur d'une manière très habile, très vraie. Elle est vraie. C'est pour ça que cette histoire, elle est là. On a besoin de vérité pour que les choses soient claires. On a besoin de l'épée de la parole. L'épée de la parole, elle a le pouvoir de trancher vraiment. La parole est une épée qui tranche, qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit, ce qui est sentimental de ce qui est spirituel. Comme quand Salomon a fait venir, vous savez, une épée. Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Devant ces deux prostituées qui se disputaient l'enfant qui n'était pas mort. Apportez-moi une épée. Vous rendez compte, tout le monde a dû comprendre. L'épée, c'est un instrument de mort. De mort ou de vie? J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Je partais faire une visite et je pensais à cette femme, à cette épée, à Salomon. Je me disais, mais il y a une parabole là-dedans. Il y a une vraie parabole. Cette épée qui était un instrument de mort et qui est devenue un instrument pour révéler la vérité, la vie. Et il y a ceux qui aiment la vie. Comme la vraie mère qui a dit « Non, 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 ne le coupe pas, ne le coupe pas, donne-le à l'autre. » Et la mauvaise mère qui a dit « Si, 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 coupez-le en deux. » L'épée de la parole, la vérité, ce n'est pas un instrument de mort, la parole. La parole, Elle a le pouvoir de révéler si les gens sont dans la mort ou si les gens sont dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu, par sa parole, nous amène à réfléchir, parce que si on croit qu'on connaît la Bible, « Ah, cette histoire, je la connais, je vais rien apprendre ce matin », ben vous n'êtes vraiment pas spirituel. Mais si vous dites « Seigneur, il faut que ta parole me montre si je suis dans un cursus de mort ou si je suis dans un cursus de vie. » L'épée, ce n'est pas qu'un instrument de mort. Elle est un instrument de mort pour les gens qui choisissent la mort. Mais pour ceux qui choisissent la vie, elle est un instrument de bénédiction. Ce matin, mon frère, est-ce que tu peux répondre à cette question? La parole est-elle un instrument de vie ou un instrument de mort qui te condamne? Parce que tu ne te fais absolument pas de soucis pour les choses de Dieu. Cette histoire, elle est là, comme une épée, qui va nous permettre de nous positionner tout en parlant au Seigneur. Marthe parle à Jésus sous forme de reproche, elle était sûre d'elle, c'était une femme de Dieu, c'était pas une femme charnelle, Marthe. C'était quelqu'un d'excellent, des fois on dit oui, les Marthe, elles valent rien, les Marie, elles sont super. Non, non, Marthe était une femme très spirituelle. Si Jésus a été dans sa maison, je pense que c'était quand même bien. Et cette femme, bien sûr, s'affaire, il y a Jésus, il y a les disciples, on ne sait pas s'il y avait les épouses des apôtres, etc. Ça faisait quand même beaucoup de monde à manger. Et Marthe, elle ne comprend pas, elle me dit, mais attends, elle me laisse seule. Pour servir. Et cette femme, elle a besoin de parler à Jésus. Si vous avez un problème avec une sœur ou avec un frère, est-ce que ça ne serait pas judicieux d'en parler d'abord au Seigneur et de le laisser répondre? Parce que Marie, elle était à ses pieds, elle aurait pu dire « Attends, mais de quoi je me mêle ?» Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle a laissé le Seigneur répondre. Et vous savez, frères et sœurs, quand on est confronté à des situations difficiles, compliquées, il y en a plein de situations. Vous savez, c'est bien de laisser le Seigneur s'en occuper. De se mettre à genoux et de dire, Seigneur, tu vois, je ne combattrai pas contre la chair et le sang, tu t'en occuperas. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça, c'est la parole qui le dit. C'est l'épée de la parole. Vous le croyez et ça amènera la vie. Et vous ne le croyez pas, et vous allez vous débattre et montrer votre caractère, peut-être, excusez-moi l'expression, mais je fais court, morbide. Nous avons un grand Dieu, frères et sœurs. Et si, de la Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur, d'une façon et d'une autre, très intelligemment, parce qu'il sait parler à l'un, il sait parler à l'autre. Et si on ne comprend pas d'une façon, il aura la délicatesse de nous le présenter d'une autre façon. Nous, on ne sait pas le faire, ça. Dieu, il sait que son nom soit béni. Et il nous indique que c'est extraordinaire que de servir. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il ne faut pas que le service dans lequel Dieu vous appelle vous inquiète et vous agite. Le service doit être une bénédiction. Quand tu passeras devant Dieu, il faut que tu puisses entendre. Entre, bon et fidèle serviteur. De la bouche de celui qui a créé les cieux. Ça vous préoccupe? Moi, ça me préoccupe, sincèrement. Des fois, je me prépare dans ma chambre, à ce moment. Bien sûr que c'est une plaisanterie. Mais mes frères et sœurs, c'est quand même un moment qui va se présenter. Le grand jour, la Bible parle du grand jour. Où je vais comparaître devant Dieu, où tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait depuis le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, tout c'est écrit, écoutez pas moi, c'est pour moi qui le dis, tout, même un verre d'eau qui représente des petites choses tout à fait infimes, mais qui sont faites pour Dieu. Jésus l'a dit, pour qu'on le sache, celui qui donnera un verre d'eau froide à l'un de mes serviteurs, eh bien il en aura la récompense. Il l'a dit ou il l'a pas dit? C'est vrai ou c'est une plaisanterie? C'est vrai. Quand vous téléphonez, tiens, il manquait Madame Dupont ce matin. Je vais l'appeler si elle a besoin de quelque chose. Ne soyez pas dans cette attitude. Ah ben c'est pas à moi le faire, c'est au pasteur, il est payé pour ça. Si vous êtes dans cet état d'esprit, demandez-lui pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. À condition que vous réagissiez bien. Quand vous faites des petites choses, si vous le faites pour le Seigneur, vous aurez une récompense dans le ciel. Amen. Mais cette histoire, elle est là pour nous montrer qu'il faut faire ce qui se présente. Il fallait bien sûr, et je suis certain, qu'après l'affaire, Marie a dû aider sa sœur. Elle, bon, je ne la vois pas en train de rester à la cuisine, en train de dire, ouais, on va voir. Vous pensez que Marie, après cette affaire, a dû se mettre à servir le Seigneur? Mais c'est sûr, c'est pas écrit, mais moi je le lis. Je suis sûr qu'elle a dû se lever avec beaucoup de cœur, aider sa sœur et peut-être des servantes qui étaient là pour honorer le maître et partager ce bon repas, parce que le repas est quand même une image de la communion. On a besoin de communion, on a besoin. Tu t'inquiètes? Mon frère, ne t'inquiète pas. C'est un ordre. Un ordre? Oui, c'est un ordre. En tous les cas, moi, un jour, j'ai entendu ça dans ma tête. Ne t'inquiète pas, c'est un ordre, parce que je commençais vraiment à m'éparpiller. Et je suis content d'avoir perçu ce commandement comme un ordre. Parce que Dieu prendra soin du lendemain. C'est une parole de vie ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a écrit dans la Bible, est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, autant dans l'Ancien Testament, dans le psaume 91, dans le sermon sur la montagne, est-ce que Jésus a dit, ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Dieu s'est engagé à garder ses enfants. Vous le croyez? Mais vraiment, vous le croyez? Il l'a promis. Si vous doutez de ses promesses, je doute que la parole, l'épée de la parole, soit une parole de vie. Vraiment. Ne t'inquiète pas. C'est bien de servir. C'est très bien de servir. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Servir Dieu, c'est important. Mais il y a quelque chose de plus important que de servir Dieu aujourd'hui. C'est de savoir que demain, je me tiendrai à ses pieds pour avoir la pensée de Dieu demain. Beaucoup de gens ont servi, ils ont fait de belles choses, et c'était vrai. Mais vous savez ce que devenait la manne le lendemain? Vous savez ce qu'elle devenait? Elle pourrissait. Il fallait se baisser, se courber et ramasser toutes ces graines blanches comme la coriandre et la mettre dans un petit pot. Seigneur, je veux faire la bonne part. Tu n'es pas encore revenu, c'est bien. Nous, des fois, on est intéressés par l'enlèvement de l'Église. Est-ce que ça vous intéresse, l'enlèvement de l'Église? Allez, répondez-moi, je ne regarde pas, je vous assure. Est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr. Moi, j'ai demandé à Dieu, peut-être 500 fois, reprends-moi. Je ne le fais plus parce que ça ne marche jamais. Ça ne marche pas, bon, j'ai arrêté. Mais mes frères et sœurs, l'enlèvement de l'Église, c'est une chose. La construction de l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment, la construction spirituelle de l'Église, si Dieu veut nous y faire travailler, ça vaudrait la peine peut-être qu'on le fasse. Ça hâterait le jour du Seigneur. Marthe, tu t'inquiètes. Mes frères et sœurs, si vous vous inquiétez, si vous vous agitez pour servir Dieu, eh bien, demandez-lui pardon. Ça part certainement d'une très bonne intention, ça prouve que vous voulez le servir, mais c'est charnel. Celui qui m'écoute reposera. Si vous avez lu Hébreux 3 et Hébreux 4, que je vous encourage à lire, il est dit, mais empressons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe, en donnant cet exemple de désobéissance. Quelqu'un qui n'entre pas dans le repos fatigue les autres. Fatigue les responsables. Il y a des gens qui sont fatigants. Vous avez déjà vu des gens pénibles? Non? C'est bien. C'est bien. Mais il arrive qu'il y ait des gens fatigants. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos, parce qu'ils ne procurent pas la paix. Et on va quand même le lire, parce que c'est ce que je vous dis, c'est archi-sérieux. C'est dans les Hébreux, chapitres 3 et 4. C'est deux chapitres sur le repos. et il parle de cette douleur qu'il y a dans le cœur du Seigneur d'abord. Parce que les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert. Ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas pu y rentrer. C'était le peuple de Dieu. Ils étaient sortis d'Égypte, ça veut dire qu'ils étaient sortis du monde. Ils étaient sauvés. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, ça représente le baptême, ça représente la délivrance du monde. Ils sont sortis du monde. Regardez, on va lire le verset 17 du chapitre 3. Regardez bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour nous qu'on critique les Hébreux dans le désert. De toute façon, on est bien leurs frères, croyez-moi. Hébreux 3, verset 17. « Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? Pourquoi ? Comment ? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'il ne put y réentrer à cause de leur incrédulité. » En fin de compte, ils sont désobéis parce qu'ils étaient incrédules. Chapitre 4. Craignons donc. Il y a un saint respect, mes frères et sœurs. Pourquoi on demande dans l'assemblée ce respect dans la tenue vestimentaire, pour les téléphones, que les gens ne parlent pas pendant la prédication, etc. Parce qu'il y a un respect dans la maison de Dieu. Il y a un respect. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, c'est une promesse. C'est pas un rêve, c'est une promesse. Subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car c'est ça qui va arriver. Chapitre, verset 3. Pour nous qui avons cru, c'est ce qu'a fait Marie, nous entrons dans le repos. Verset 7. Dieu, regardez ça, c'est si Dieu n'est pas miséricordieux. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez plein de reconnaissance. Dieu dit, ça suffit, il y en a marre. Dieu fixe, alléluia, de nouveau un jour, aujourd'hui. Vous pouvez dire alléluia. Je ne sais pas si vous soupçonnez la tendresse de Dieu. Vous rendez compte, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais voilà, je fixe un autre jour, aujourd'hui. 21 octobre 2018, je vous fixe un jour, aujourd'hui. Alléluia. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et là, il y a le commandement qui n'est pas un commandement de grâce, c'est une invitation. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Amen. C'est un commandement, c'est une invitation. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. En donnant le même exemple de désobéissance, il n'y a rien de plus triste que d'appartenir à Dieu, d'être un de ses enfants, comme les Hébreux dans le désert, et de tomber. Parce qu'on n'a pas eu cette intelligence, cette soif, plutôt cette soif, parce que l'intelligence, quoi que la Bible en parle, donne-moi de l'intelligence, ça vient souvent, ça. Mes frères, être un enfant de Dieu, un chrétien, un vrai chrétien, lavé par le sang de Jésus-Christ, couvert par son sang, protégé par les anges, et de tomber sur le chemin, parce qu'on n'est pas rentré dans le repos. C'est pour ça que Jésus dit à Marthe, mais c'est beaucoup de choses. Tu sers Dieu, c'est beaucoup de choses. Tu veux servir Dieu, c'est bien. Mais il y a une bonne part, celle que tu ne peux acquérir que si tu restes assis. Marie, elle était assise, ce qui est l'image d'ailleurs, vous êtes en train de le vérifier, du repos, ce que moi, je ne vis pas physiquement. Vous êtes assis, votre corps est détendu. Je suis obligé, moi, de faire un effort pour rester debout. Elle était assise au pied du maître. D'ailleurs, quand quelques jours après, à la résurrection, quand Jésus a ressuscité Lazare, ce respect, vous voyez, Marie, elle n'a pas dit, ouais, c'est notre ami. Le maître est ici. Enfin, Marthe a dit à Marie, le maître est ici et il te demande. Marthe connaissait très bien Jésus. Marie connaissait très bien Jésus. J'en profite pour vous dire que ça ne les a pas amenés à de la de la familiarité. Le maître est ici. Elles savaient qui venait dans leur maison. Elles savaient qui devrait être dans nos maisons. Et nous devrions, nous aussi, avoir une approche un petit peu plus sérieuse quand nous nous approchons de Dieu. Il est le maître. C'est un grand, grand, grand bienfait de pouvoir lui parler. Si la prière est pour vous une corvée, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Pouvoir parler à Dieu est un immense privilège. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais si la prière vraiment reste au niveau du combat, demandez-lui de l'aide. Demandez-lui de l'aide. Moi, je ne sais pas comment vous le dire. Parce que je sais que Dieu est miséricordieux. Aujourd'hui, il fixe un jour que son nom soit béni. Il pourrait dire, écoutez, ça fait, franchement, mais ça fait des années que vous me tournez le dos. Ça fait des années que vous me désobéissez. Aujourd'hui, Dieu fixe un jour que Dieu soit béni, vraiment béni. Empresse-toi, mon frère, d'entrer dans ce repos afin que tu ne tombes pas. Il y a les doctrines sur la sécurité éternelle sont en train de détruire les églises. Je peux vous dire qu'on peut perdre le salut. On peut perdre la grâce. Et nous avons là cette histoire, Jésus l'a voulu. Marie, elle est assise. Elle est assise, ça veut dire qu'elle est dans le repos. Elle est tranquille. Je sais que beaucoup de croyants ont besoin de tranquillisants et je ne suis pas capable, moi je ne suis pas docteur, de donner des explications par rapport aux tranquillisants. Mais je crois que celui qui m'écoute, on l'a lu, demeurera tranquille et reposera avec assurance. Marie, elle représente les chrétiens qui vont être dans le repos. Après, elle va servir, c'est sûr. D'ailleurs, la preuve, vous la connaissez. Vous savez ce qu'elle a fait après Marie? Qu'est-ce qui nous est dit de Marie après cette affaire? Deux jours avant la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait Marie? Est-ce que c'était une paresseuse? Ou est-ce qu'au contraire, elle a fait quelque chose de glorieux qui parfume l'histoire depuis 2000 ans? Elle a répandu un parfum aux pieds du Seigneur. Deux jours avant sa mort. Et alors que les spécialistes de la religion, les professionnels de la prédication lui expliquaient que c'était grave ce qu'elle avait fait, qu'on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres, on aurait pu le vendre 300 deniers, une année de salaire. Vous vous rendez compte? Judas a pris, bien sûr, le maître des finances a pris le relais et a expliqué où c'est qu'était la valeur. Il a tellement bien fait que juste après, il nous a dit qu'il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. À lui, s'y connaissait. Oui. Il s'est connaissé dans l'évaluation des gens. S'il s'est trompé au niveau de Marie, je vais jamais de dire que ce n'est pas trop grave. Mais ce qu'il a fait quelques heures après, ça c'est grave. Et Marie, elle est là. Elle écoute. Elle reçoit la pensée. D'ailleurs, quand elle va répandre le parfum, et que là aussi, elle ne va pas se défendre, elle aurait pu dire, mais quand même, je sais ce que je fais, vous, voilà, moi. Elle n'a rien dit. C'est Jésus, une fois de plus. Vous pouvez le lire avec moi, c'est dans Matthieu, je sais que le texte est Matthieu 26. Regardez, c'est beau, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien est dans le repos? Eh bien, il reçoit la pensée de Dieu. C'est magnifique, hein, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Je ne sais pas si c'est important pour vous de recevoir la pensée de Dieu. Peut-être que vous dites, mais moi je sais. Écoutez, arrêtez de dire ça. Parce que vous ne savez pas à quoi Dieu va vous appeler demain. Si Dieu vous appelle au ministère, jeune fille, si Dieu t'appelle à être l'épouse d'un pasteur, moi je te conseille de t'arrêter et de t'asseoir dans la présence de Dieu. Parce que encore la semaine dernière, il y a un pasteur qui a arrêté. Et je peux vous dire qu'un pasteur qui ne reçoit pas la pensée de Dieu, pour moi, aujourd'hui, l'apostasie est tellement dans les églises que c'est impossible de tenir une église. Impossible. Matthieu 26. On la lit cette histoire, on la lit, on la relit, on l'a souvent lu ici. Eh bien, c'est bien. Matthieu 26, 6, donc verset 2. La Pâque a lieu dans deux jours. Deux jours avant la mort du Christ. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, Jésus était recherché, j'en profite, comme un criminel. Ça fait peine. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Imaginez-vous cette scène. Les disciples, là c'est les disciples. Dans Marc, c'est quelques disciples. Dans Jean, c'est Judas. Bon, les disciples, peut-être que c'est tous. Voyant cela, s'indignèrent. En tous les cas, il y a une gradation dans le mépris. Ça, c'est sûr, c'est ça que ça veut dire. Et à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, elle dit rien. Et mes frères, si on comprenait ça déjà. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 12, voilà ce qu'elle avait reçu lorsqu'elle était assise au pied du maître. En répandant ce parfum sur mon corps, vous avez vu ce qu'il dit? Pourquoi elle l'a fait? Pour faire la maline? Elle l'a fait pour ma sépulture. Elle savait, c'était la seule femme, la seule personne, même pas un homme, qui allait changer le monde. Dans tous les hommes que Jésus a côtoyés sur la terre et femmes, c'est la seule, écoutez-moi frères et sœurs, je ne peux pas vous le dire autrement, de tous les hommes, de toutes les femmes que Jésus a côtoyés, enseignés, qu'il a passé des heures avec les apôtres, c'est la seule personne sur la terre qui savait, qui avait compris vraiment que Jésus allait mourir. Elle l'a fait pour ma sépulture. Alors quelqu'un pourrait dire, ouais, mais moi, je ne peux pas faire quelque chose, il est mort. Il est mort, le Seigneur. Il est ressuscité. Oui, écoute bien. Tu peux le faire pour son retour. Parce que vous croyez que Jésus va revenir? Il y a quelqu'un ici qui croit au retour de Jésus-Christ, au règne de Jésus-Christ sur la terre? Il y a quelqu'un qui croit que Jésus va revenir? Alors Seigneur, je sais que tu vas revenir. Alors il me faut moi aussi, eh bien, m'asseoir à tes pieds et recevoir ce que tu veux que je fasse avant que tu reviennes. C'est dans 2 jours, c'est dans 2 mois, c'est dans 2 ans, qu'importe. Mais Seigneur, je ne sais pas, cette histoire, vous avez vu, dans le monde entier, dit Jésus, là, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé les apôtres, je ne sais pas s'ils l'ont cru, dans le monde entier, on racontera cette histoire et on le fait encore aujourd'hui. Elle l'a fait, pas spontanément, pas mécaniquement. Elle ne l'a pas fait pour le faire. Elle l'a fait parce qu'elle avait besoin de le faire. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous servez Dieu, parce qu'on ne sait pas comment, vous ne savez pas, enfin vous me connaissez un peu, mais vous, est-ce qu'on sait comment quelqu'un sert Dieu vraiment? Puis il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. Comment je le sers? Comment je reçois? Est-ce que c'est important pour moi? Ou est-ce que juste j'écoute un sermon dimanche après dimanche? C'est bien, ça m'intéresse, c'est édifiant, c'est bien ces sermons. Mais mes frères et sœurs, notre vie spirituelle ne s'arrête pas à un sermon. Notre vie spirituelle commence lorsque je m'assois moi aussi. Le temps qu'il faut, avant même de servir, je vais m'asseoir. Peut-être que vous préférez vous asseoir devant la télé, je ne sais pas, je ne veux pas être bête et stupide. Mais quand même, c'est des images qui tiennent debout. Ça tient debout ce que je dis. Est-ce que j'ai besoin de connaître la pensée de Dieu? Il reste 2 jours, il reste 2 mois, il reste 2 ans ou plus, qu'importe. Est-ce que je vais comparaître devant Dieu, parce que j'aurais travaillé avec de l'or qui représente l'intégrité, de l'argent qui représente le résultat de la rédemption, les pierres précieuses qui représentent la vie de l'esprit. Est-ce que je vais travailler avec cette vie de l'esprit, avec cette beauté de la rédemption, avec cette intégrité qui caractérisait tout ce qui couvrait le temple? Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, sincèrement, est-ce que c'est important pour toi de t'asseoir à ses pieds? Ou est-ce que tu fais partie de ces gens iniques, impies, qui parlent de la prière vraiment comme quelque chose de galéreux? Si la prière est pour vous quelque chose de pénible, de douloureux, moi je vous dis, demandez-lui pardon. Aujourd'hui, Dieu te fixe un jour, dans son immense bonté. Je te fixe un jour maintenant, là, maintenant. 21 octobre 2018, 11h10, Dieu te fixe un rendez-vous. Entre dans le repos, assieds-toi, tu connaîtras sa pensée. Tu auras à cœur et tu verras que c'est ce que Dieu t'appelle. Tu verras ce qu'est la vraie joie, que ce soit Vincent, que ce soit Jonathan. Vous avez vu le texte qu'a pris Vincent pour conclure cette invitation. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, Esaïe. C'est pas vrai? Qu'est-ce que vous avez fait de cette parole? Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que déjà vous l'avez oublié? Je sais bien qu'on ne peut pas tout retenir. Vous puiserez. Moi, quand les jeunes prêchent, tout ça, j'écoute. Mais je n'écoute pas pour surveiller. J'écoute pour savoir ce que Dieu peut me dire aussi au travers des frères. Vous puiserez avec joie. Seigneur, j'en ai honte, je vais chercher ma joie dans des choses mondaines. Pardon. Seigneur, je te remercie de me fixer de nouveau un jour. Aujourd'hui. Sa miséricorde est éternelle. Mais un jour, mes frères et sœurs, vous le savez, la porte se fermera.